voix nue. Toute cette semaine, Céline Duchesnay rencontre Catherine Robbe-Grillet. Ce soir, croix de nacre et couronne d'épines.
Catherine Robbe-Grillet ou la femme aux multiples visages. Car elle n'est certainement pas que l'épouse d'Alain Robbe-Grillet, décédé en 2008 et pape du nouveau roman. Du haut de son 1m50 et de ses 85 ans, elle est aussi maîtresse de cérémonie sadomasochiste. Lorsque l'on rencontre Catherine Robbe-Grillet chez elle, dans une banlieue chic parisienne, on a affaire à une dame à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession. Très bon chic, bon genre, sous son chignon gris. Pourtant, Jeanne Debert, son double, son nom de scène et de plume, c'est une autre paire de manches. Si Catherine est douce et pétillante, Jeanne est autoritaire, impitoyable et dominatrice. Cheminons donc toute cette semaine en compagnie de Catherine et de Jeanne à la découverte d'une personnalité originale, muse d'Alain Robbe-Grillet, femme à la sexualité singulière qui a su d'elle-même créer son propre personnage, théoriser sur le sadomasochisme et réinventer sa vie selon son bon plaisir. Bonsoir Catherine Robbe-Grillet.
Bonsoir.
Vous nous recevez chez vous, dans un salon qui en dit long sur les multiples univers que vous traversez, les objets rapportés de vos voyages avec Alain Robbe-Grillet. Il y a ces peaux de bête ayant servi de décor au film L'Immortel, d'Alain Robbe-Grillet aussi. Un mannequin de femme, là, juste à côté de moi, avec une belle fourrure autour du cou, et qui a servi à l'une de vos mises en scène, mais à première vue, rien qui ne parle de votre enfance ou de vos origines arméniennes, car vous êtes née Catherine Rstakian.
Oui, alors c'est un nom, effectivement, qui commence par trois consonnes. Alors on me dit, généralement, comment vous prononcez ça? Alors je dis, il faut rouler l'air et prendre son élan. Rstakian. Alors, évidemment, c'est pas très simple. Et je me souviens que quand j'étais en classe, il y avait des professeurs qui, voyant mon nom, là, et voulant m'interroger, hésitait et pointait du doigt et disait « Vous, là-bas !» Comme ça, ils n'étaient pas obligés de prononcer mon nom. Mais de toute façon, pendant toute mon enfance, mon père avait quand même facilité les choses. C'est-à-dire qu'il avait rajouté un « i », il avait supprimé le « yan ». Alors, ça faisait « Rstak ». Et il y avait quelque chose un peu bizarre, tout de même, parce que s'il avait voulu que le nom soit vraiment français, il aurait fallu mettre un « c » à la fin. Là, ça faisait un nom du sud de la France. Tandis qu'un « k », c'était très bizarre. Et j'en ai pris conscience, finalement, relativement tard. Enfin, voilà. Bon, alors, j'ai été conçue, paraît-il, rue Champollion, à Paris. Puis je suis née rue Morère, dans le 14e. Donc, je suis vraiment parisienne. Alors, mon père, effectivement, comme on vient de le voir à cause de mon nom, typique avec le « yan » à la fin, était donc arménien. Il habitait dans son enfance en Arménie russe. Et au moment des problèmes du génocide arménien, c'est-à-dire en 1915, quand les Turcs ont commencé à vouloir se débarrasser des Arméniens, mon père était en Arménie russe. Donc, lui ne craignait rien. Mais en 1917, a commencé la révolution bolchevique. Et à ce moment-là, les Russes sont partis et les Turcs sont rentrés dans cette enclave russe. Alors à ce moment-là, ils ont quitté l'endroit où ils habitaient, qui s'appelait Ardanouch. Ils sont, paraît-il, pris un radeau sur la rivière qui les a amenés à Batoum, qui est un port sur la mer Noire. Et de là, ils ont pris un train pour aller à Tiflis. Ils sont restés 3 ans à Tiflis jusqu'en 1920. C'est-à-dire à la fin de la guerre. Et là, le jeune Turc qui avait pris la tête du gouvernement, qui s'appelait à l'époque Mustafa Kemal et ensuite Kemal Atatürk, avait reconnu quand même que ce massacre était ignoble. Mais quand Mustafa Kemal a fait ses déclarations, les Arméniens, donc mon père et sa famille qui s'étaient réfugiés à Tiflis, se sont dit « on peut rentrer ». Donc, comme ma grand-mère était originaire d'Istanbul, ils sont retournés à Istanbul. Là, mon père a été éduqué dans une école chrétienne, parce qu'il était chrétien. Et donc là, en 1924, Mustafa Kemal, qui à ce moment-là commençait à s'appeler Atatürk, a décidé qu'il ne voulait pas réintégrer les Arméniens. Et à ce moment-là, ils étaient apatrides. C'est-à-dire que ça a été, en 1924, l'exil des Arméniens. Alors, lui est venu en France avec son frère, qui voulait faire des études de médecine à Montpellier. et le reste de la famille est parti pour Téhéran. Et entre 1924 et 1929, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais je retrouve mon père en 1929 à Paris, travaillant dans une à la Populaire, qui est une compagnie d'assurance. En 1929, il épouse ma mère. En 1930, je nais. Voilà.
Est-ce que cet épisode arménien, comme vous le nommez, est-ce que ça a eu une importance, je dirais, dans votre construction personnelle?
Non. Bizarrement, mon père ne parlait pas de son enfance. Il n'a absolument jamais essayé de nous apprendre l'arménien, ni le russe, puisqu'il parlait russe aussi. Il avait été éduqué en français chez les frères des écoles chrétiennes. Et donc, il n'a jamais essayé. Je l'ai regretté. Ça aurait été un plus pour nous quand même. Il conservait des rapports avec ses parents, il s'écrivait de temps en temps, mais il s'est tout à fait intégré à la société française.
Alors justement, parlons maintenant, Catherine Robbe-Grillet, de votre enfance. Comment est-ce que vous pourriez qualifier cette enfance? Quelle couleur, quelle atmosphère quand vous y pensez?
Pas très gaie, un peu grise. Je pensais que c'était un peu ça pour tout le monde. Et puis quand j'en parle autour de moi, mes amis me parlent d'enfance heureuse, de tendresse, d'amour entre les parents et les enfants. Je ne veux pas dire mes parents ne m'aimaient pas, mais c'était pas une atmosphère de tendresse. On gardait une certaine distance, on ne s'embrassait pas. Il faut dire aussi que toute mon adolescence, c'était la guerre. Quand la guerre a commencé, j'avais à peine 9 ans. Avec tout ce qu'il y avait de restrictions, de bombardements, le froid, les carences. Et la fin des tickets de rationnement, c'est 49. J'avais donc déjà près de 19 ans. Donc, toute mon adolescence, ça a été la guerre. Donc, dans toute ma petite enfance, on a habité à Boulogne-Billancourt, dans ce qu'on appelait un HBM. L'équivalent des HLM actuels, hein, c'est-à-dire des loyers bon marché. Et alors, je me rappelle très bien que des fenêtres, on voyait le cimetière de Boulogne-Billancourt. Et ensuite, ils ont aménagé rue de Rennes. Là, j'ai 7 ans. Et je rentre à l'école à Notre-Dame de Sion, qui était une école, donc une institution religieuse, qui n'était pas très loin de chez nous. Et ça m'a tout de suite intéressé les études et j'ai sauté une classe. Je suis passée tout de suite à l'école, dans la classe de 9e. Alors, à ce moment-là, c'est 1939. L'institution religieuse pense que la guerre est déclarée, il faut que les élèves soient dispersés. En tout cas, ne restent pas à Paris. Donc, on se replie à Grandbourg, qui était juste au-dessus de Évry-Petitbourg. Évry qui existe toujours, hein, enfin, qui est devenue une grande cité. Et là, il y avait un grand parc. Et donc, toute cette année-là, s'est passée là. Et je revois des photos où je suis l'élève sage, en uniforme, avec toutes sortes de cordons, de décorations. Et donc, on avait toutes la petite jupe plissée, le corsage bleu marine, un petit col blanc amovible, une ceinture de la couleur de ma classe, qui était rouge, et puis on avait toujours une croix de nacre au bout d'un ruban. Et puis, j'avais des grands cordons. Le cordon d'application, de sagesse et d'application. Et si on n'avait pas bien travaillé, on perdait sa croix. Donc, on n'avait plus que la ceinture. Et quand on perdait la ceinture, on était renvoyé. C'était grave, tout ça. Bon, enfin, ça n'a jamais été mon cas. J'étais plutôt bonne élève.
Bonne élève, mais vous m'aviez dit élève ricanante, avec mauvais esprit.
Alors, j'avais mauvais esprit, exactement. C'est-à-dire que j'aimais bien les études, ça m'intéressait. Quand je rentrais en classe, j'avais déjà lu mon manuel d'histoire et de géographie. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élèves qui le font actuellement, mais enfin bon. Mais j'aimais pas trop le préchi-précha, j'aimais déjà. Et je ne sais pas pourquoi, on m'avait appelé l'élève ricanante. Je passais pour avoir mauvais esprit. Et je me rappelle que pendant les retraites, il y avait tous les ans des retraites qui duraient 3-4 jours, au lieu d'aller avoir des livres de prière, des livres pieux à lire, on me donnait des romans. Des romans très convenables, évidemment. Hein. Donc, c'est qu'on sentait déjà chez moi une certaine réticence. Je ne me rappelle pas exactement, mais j'étais vue comme ça par les religieuses. Alors donc, tout ça, c'était jusqu'en 40. Et alors là, dès avant l'Exode, nous avons été envoyés dans un établissement qui était aussi notre institution à Biarritz. Donc moi, je n'ai pas vu l'Exode. On a été protégés. La France était occupée, on n'était plus dans la guerre, si vous voulez, dans un certain sens. Donc on est retourné rue Notre-Dame-des-Champs. Donc entre 41 et 45, j'étais rue Notre-Dame-des-Champs. Et là, la vie était difficile quand même, parce que, bon, les restrictions, je me souviens qu'il y avait des jours où il n'y avait pas grand-chose à manger. Hein. C'était de la crémosine. Et la crémosine, c'était une bouillie de céréales, sans sucre, sans lait, comme ça. Ben, c'était pas bon. Et comme on avait des carences de je ne sais trop quelle vitamine, on avait des engelures. C'est les doigts qui se boudinent, qui deviennent rouges, qui brûlent, et puis ça démange terriblement. Je ne sais pas pourquoi, c'était toujours vers midi que ça démangeait. Voilà. Donc, il y avait d'un côté les lèvres ricanantes et de l'autre côté les lèvres carencées. Alors, je faisais la lecture au réfectoire. J'étais pensionnaire. Et je faisais la lecture parce que j'avais une belle, très grosse voix. Et je me souviens que la religieuse qui surveillait le réfectoire me disait « Mais Catherine, c'est pas la peine d'élever la voix, on vous entend très bien !» Enfin, voilà.
Alors, Catherine Robbe-Grillet, ce qu'on pourrait peut-être rappeler aussi, c'est que votre père était très souvent absent parce que malade et tuberculeux.
Mais oui, c'est vrai. J'ai oublié de dire ça. C'est qu'en 1939, il a voulu s'engager. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'il avait une tuberculose très avancée. Et je me souviens d'un souvenir horrible qui était le voir vomir le sang dans une cuvette en émail. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Donc, il est parti en sanatorium. Et donc, nous sommes restés, nous. Je me rends compte que j'ai vécu dans un univers de femmes. Ma grand-mère était veuve, donc mon père était absent. Je n'avais que des sœurs et j'étais élevée dans une institution religieuse de femmes, évidemment. Donc, pour moi, les hommes, c'était quelque chose d'autre et de très lointain. Donc, pendant toute la guerre, mon père n'était pas là parce que il était en Savoie, Pracoutan, dans un sanatorium. Et puis, on payait, avant la guerre, on payait ma pension. Et puis, en 40, au moment où mon père est parti en sanatorium, on n'avait plus d'argent. Hein. C'est-à-dire qu'il avait quand même un petit quelque chose. Vraiment, tirer le diable par la queue. Hein. Je sais que ma mère, quelquefois, était obligée d'aller au bureau de bienfaisance au 6e arrondissement. Et là, vraiment, elles ont été formidables, les religieuses. C'est-à-dire qu'on ne payait plus, mais elles nous ont gardées. Et elles nous ont protégées tout le temps. C'est-à-dire qu'en mai 40, il fallait partir. Alors, les élèves sont allés dans leur famille, mais nous, elles nous ont envoyés dans une petite colonie de vacances un peu bizarre, près de Sully-sur-Loire, au château de Solaire, où là, on était une douzaine de filles. C'était surtout des filles, et il y avait un jeune garçon. Et donc, à partir de là, on a vécu le débarquement là. C'était très bizarre pour nous, parce que de temps en temps, il y avait des Allemands qui passaient, qui bivouaquaient dans le parc, et puis de temps en temps, c'était des Américains. Successivement, les Américains étaient là, mais de temps en temps, il y avait des Allemands qui revenaient. Et il est arrivé là encore quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappée, qui était, alors on allait à la messe évidemment, le dimanche, on partait avec nos livres de messe et nos tenues du dimanche. Et en partant, on trouve quelque chose de bizarre, qui était une espèce de boîte de conserve avec un manche en bois. On se dit, on regardera ça après la messe. On va à l'église, en rentrant, je dis à mes petits camarades, je vais mettre les livres de messe au château, et je vous rejoins à la cabane. La cabane était un endroit qu'on avait construit au bout du parc, vous savez comme font les adolescents. Et j'étais dans le château, et tout d'un coup, j'entends une explosion. Et tout de suite, j'ai compris. J'ai couru, j'ai traversé toute cette grande prairie qui allait à la cabane, j'ai croisé une fille en sang, et quand je suis arrivée là, même encore maintenant, il y en avait deux qui étaient morts. En réalité, c'était une grenade. C'est-à-dire qu'il suffisait d'ôter le bouchon au bout du manche on tirait sur une ficelle et ça éclatait, tout simplement. C'était une grande mode à oublier par les Allemands. Bon, enfin, ça m'a beaucoup marqué. Et bon, j'ai vu ça, je suis retournée au château pour avertir. Et là, tout d'un coup, du haut de mes 13 ans, j'ai eu l'impression que c'était moi qui avais mon contrôle. Et que tous les adultes étaient complètement affolés, ne sachant pas quoi faire. Et c'était moi, du haut de mes 13 ans, qui disais, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Alors on a rentré les cadavres dans le château. Et ce qui me reste, c'est dans la nuit, les hurlements de la mère. C'était horrible. Excusez-moi de le sentir, mais vraiment touchée par ça. Et alors après, j'ai retrouvé, quand vous m'avez parlé de cet entretien, j'ai retrouvé un petit carnet où à l'époque, j'avais donc 13 ans, j'ai noté jour par jour tout ce qui s'était passé par cet été-là. Alors il y avait, je vous dis, grondement des forteresses volantes qui ont bombardé sur le lit. Mitraillage, avion en flammes, trouver un éclat de bombe dans le parc. Les Allemands sont venus bivouaquer. Bon, et dans ce petit carnet, c'était juste factuel. C'est-à-dire, le jour où il y a eu cet accident, ce qui était marqué, c'est grenade éclate, mort de Loulou, qui s'appelle Louis, et Christiane, c'est tout.
Alors Catherine Robbe-Grillet, de ses souvenirs d'enfance et je dirais même plus précisément de ces années passées dans une institution religieuse, donc Notre-Dame des Sions, est-ce que vous pensez que ce décor particulier, là je parle plutôt du côté religieux de l'institution, oui, que ce soit les prie-dieux, la musique liturgique, des éléments que l'on peut retrouver dans les cérémonies érotiques, oui, que vous organisez aujourd'hui, est-ce que vous avez tiré un décor qui vient de l'enfance, qui vient de cette institution?
Oui, bien sûr, évidemment. Vous savez, moi, j'étais dans une époque où la religion était encore avec de l'apparat. C'est-à-dire, quand le prêtre disait la messe, il y avait des très belles chasubles brodées d'or. On chantait en latin, sans compter l'odeur de l'encens, le cierge pascal, enfin, tout cet apparat qui m'a imprégné incontestablement. Et effectivement, dans mes cérémonies, j'ai plutôt tendance à utiliser une musique de la musique liturgique. Elle a imprégné mon enfance, l'encens, les bougies, oui.
Des éléments qu'on retrouve dans vos cérémonies.
Oui, et d'ailleurs, j'étais tellement imprégnée par ça qu'à un moment, pour moi, l'idéal d'une vie, c'était d'être martyr. Parce que ce qu'on avait devant nous, l'idéal, c'était le Christ en croix qui s'était sacrifié pour nous, pour racheter nos péchés. Donc, vous savez, quand on est petite, on se laisse influer. J'avais beau être ricanante et m'énerver contre le préchipécha, j'ai quand même été imprégnée de tout ça, évidemment.
Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un lien entre le martyr comme modèle, donc la souffrance rédemptrice, et le monde du sadomasochisme? Est-ce que pour vous, il y a eu une connexion entre les deux?
Écoutez, non, je ne pense pas. Parce que cette éducation, elle a été la même pour mes sœurs et pour moi. Et je suis la seule à m'être tournée vers ce type de pratique. Mes sœurs, pas du tout. Je dirais même qu'elles y sont tout à fait hostiles. Donc, je ne pense pas, non.
Pas que ce soit la conséquence, bien sûr, mais que vous avez pu puiser aussi dans ces images de votre enfance pour créer un décor qui vous ressemble.
Oui, bien sûr. Tout à fait. J'ai été tout à fait impressionnée par ça, imprégné par ça, c'est évident. Je voudrais revenir là-dessus sur donc que c'est pas une enfance heureuse que j'ai eue. Pourtant, on devait rire quand même de temps en temps chez moi. Il devait quand même y avoir des sourires. Et pourtant, c'était pas le bonheur. Il n'y a pas eu des drames chez moi. On s'est pas tapé dessus. Enfin, c'était pas. Mais il y avait des tensions. J'avais une sœur qui était difficile et il y avait souvent des tensions, des portes qui claquent, des choses comme ça. Puis ma mère n'avait pas une bonne santé non plus. Elle était ce qu'on appelle bipolaire. Donc, c'est pas le bonheur. Quand je vois des gens qui s'embrassent, qui se font des tendresses, Non, il n'y a jamais eu ça chez moi. Alors, la tendresse et le bonheur familial, je l'ai appris plus tard, quand j'ai épousé Alain et que j'ai connu la famille Robbe-Grillet. Là, j'ai été adoptée, on m'a aimée, enfin, ma belle-mère était, elle me donnait toujours raison, elle disait, « Oh ben voilà, c'est comme si j'avais eu une petite fille tardivement. » Parce qu'évidemment, au moment où je l'ai connue, elle avait plus de 50 ans. Et j'ai vraiment été heureuse dans cette famille, qui était au contraire la fantaisie, l'inattendu, mais c'était le clan. C'est-à-dire, il y avait les Robbe-Grillet et puis il y avait les autres. Et j'ai été intégrée dans ce clan. Et si vous voulez, je peux vous lire un petit impromptu écrit par ma belle-mère qui illustre bien ça. Impromptu écrit par la mère d'Alain. Titre « Une famille de génie ». Le père est ingénieur et fut sapeur du génie. La mère est ingénieuse et le fils est génial. La fille est au génie rural. Le bon génie de la famille est un charmant petit lutin, joli, gentil, vif et mutin, qui sait tout faire et le fait bien. Le poète aurait grand besoin d'un brin du génie familial, mais il s'est amusé comme ça, en coupant du foie pour ses chats. Donc, je suis devenue le petit génie d'un génie.
Et alors, ce qui m'intéresserait de savoir aussi, comment vous vous êtes éveillée à la sexualité. Est-ce que, par exemple, l'atmosphère familiale, vous nous en avez parlé, mais cette ambiance entre filles, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la pension qui pouvait être propice à l'épanouissement des corps ou qui pouvait...
Oula ou sûrement pas. On chassait tout ce qui pouvait faire allusion à la sexualité, hein. Par exemple, il était interdit de se promener à deux dans le parc, parce qu'on ne sait jamais ce qui pouvait se nouer entre deux élèves. Non seulement ça, mais nos pupitres étaient régulièrement visités pour savoir ce qui se passait. Et je sais qu'une de mes amies avait été renvoyée parce qu'on avait trouvé des mots doux dans son pupitre. Et la mère supérieure avait fait venir ma mère pour lui dire qu'on renvoyait tel élève, mais que je n'étais pas impliquée là-dedans, parce qu'on n'avait rien trouvé de douteux dans mon pupitre. Et ça m'avait sidérée, je dois dire. Je ne m'étais pas douté de ça, que nous étions surveillés à ce point. Alors, il y avait parmi les élèves, des élèves qui étaient plus délurés que moi. Moi, je n'étais pas délurée du tout. Pas du tout. Et je crois que je n'avais pas envie de savoir. Comme si je me disais, je saurai plus tard, ce sera une surprise. J'avais pas cette hâte du tout qu'avaient peut-être d'autres de mes camarades, dont une, je me rappelais, une très jolie fille blonde, qui quand elle rentrait de ses week-ends, on sentait qu'il s'était passé peut-être des choses. Pas bien grave, elle avait dû flirter, enfin on avait 15 ans à l'époque. Mais moi, c'était pas du tout mon cas. Je vous dis, on était très surveillés. C'était la hantise. Et même, j'avais une très grande amie qui était la plus grande de la classe. Moi, j'étais la plus petite. Et j'allais chez elle en vacances. Elle habitait Châtillon-Coligny. Et elle avait des frères. Bon. Mais on habitait dans la même pièce. Et on s'amusait beaucoup. Elle était la plus grande, j'étais la plus petite. On échangeait nos chemises de nuit. Moi, je nageais dans sa chemise de nuit. Elle, ça lui arrivait au niveau des cuisses. Enfin bon. Et l'année suivante, on nous a séparés. C'est-à-dire qu'elle était dans sa chambre et moi j'étais dans une chambre. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi on nous séparait? C'était ma grande amie. Alors elle était plus éveillée que moi sans doute. Elle m'a rien dit. Donc on se méfiait. On s'est toujours méfié des relations éventuellement coupables entre filles. On n'appelait pas ça lesbienne d'ailleurs. Je ne connaissais même pas ce mot-là. Donc on s'en méfiait. Ouh là là, ouh là là.
Alors Catherine Robbe-Grillet, du coup cette femme libre et sans tabou, notamment concernant la sexualité, elle est née quand ?
Eh ben, elle est née après justement. C'est-à-dire que à la fin de mes études, j'ai passé une année après, j'ai passé mes bacs avec mention d'ailleurs, et après j'ai fait la philo au lycée Victor Duruy parce que je trouvais que le niveau intellectuel du professeur de philo à l'entrée de sciences n'était pas tout à fait celui que j'attendais. Donc, je suis allée au Victor Duruy. Et là, comment ça s'est fait? J'ai dû être avoir affaire à des amis qui étaient beaucoup plus délurés que moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris comment les enfants se faisaient. Enfin, tout de même, c'est arrivé. Alors, bon, j'ai commencé à faire des études de droit à l'Institut catholique, près de chez moi. Et une année d'études à... Oui, c'était à la Sorbonne. Mais enfin, c'était pas sérieux. Et là, j'étais un peu perdue. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de sérieux tout de même. Et j'ai passé le concours d'HEC, qui à l'époque était scindé. C'était pas mixte. Il y avait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, en 1951, deux hommes qui ont beaucoup compté dans ma vie, pratiquement en même temps, qui étaient Alain Robrier et un homme qui était diplomate et qui travaillait au Quai d'Orsay. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre ma vie de façon assez libre. Enfin, à l'époque, j'étais déjà plus vierge tout de même. C'est drôle, c'est un peu flou dans ma tête tout ça. Je me souviens que la première fois que j'ai eu un rapport avec un garçon qui n'était pas vraiment consenti, c'était, vous savez, je me défendais un peu, mais pas vraiment, pensant qu'il allait respecter le fait que je n'avais pas vraiment envie. Bon, il n'a pas respecté ma parole, évidemment. Et je me souviens qu'après, j'ai dit, bah si, c'est ça l'amour, c'est pas drôle. Donc, j'avais commencé de façon un peu pas très satisfaisante, je dois dire. Avec aussi un épisode difficile. Vous savez, il n'y avait pas la pilule hein, à l'époque. Alors j'avais subi un avortement très pénible, vraiment pénible. Et j'étais terrorisée par tout ça. Qui était le lot d'ailleurs de toutes les filles à l'époque. Hein. C'était la hantise des femmes, c'était la hantise des filles. Surtout ne pas tomber enceinte. Et je dois dire que pour le plaisir, c'était un frein terrible. Il y a eu énormément de femmes hein, qui se sont fait avorter à l'époque. Et c'était dangereux parce que on risquait d'y laisser sa vie. Je ne sais pas si les femmes maintenant savent quelle chance elles ont de pouvoir maîtriser ça. Si elles le savent, je pense, on leur a dit.
Merci beaucoup Catherine Robbe-Grillet. On se retrouve demain soir pour la suite de notre À Voix Nue.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Duchesnay avec Catherine Robbe-Grillet. À Voix Nue. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Bernard Quentin, réalisation Vincent Abouchard, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.